Ladies and gentlemen, we are about to bring our program.
Mesdames et messieurs, nous allons commencer notre programme d'ici peu. J'aimerais vous présenter Steve Crocker, vice-président du board de l'ICANN. Merci. Je suis très heureux d'être ici. Nous allons avoir quelques interventions ce matin. Nous allons parler d'allocation et d'affectation des adresses. C'est peut-être moins excitant, enthousiasmant que les affectations des adresses IPv4 pour la dernière fois. Mais nous avons un excellent panel, une table ronde de haut niveau sur le sujet des abus dans le domaine DNS. Et je vais tenter de ne pas prendre trop de temps. Vous avez la liste des personnes qui sont ici présentes. Richard Poskovic de Microsoft. On va l'appeler Bosco. Nous avons Joe Saint-Sever de l'Université de l'Oregon. Je vais l'appeler Joe, tout simplement. Michael Moran d'Interpol. Robert Flem, Bobby, on va l'appeler Bobby, du FBI. Glenn Watson de l'administration américaine qui s'occupe de l'alimentation et drogue et médicaments, et Terry Stom, également de USDIA. Donc nous allons, sans plus attendre, donner la parole à... Et je vais vous demander de limiter votre temps de parole, puisque nous sommes nombreux, à limiter donc votre temps de parole. Je peux être dur, vous savez, attention. J'espère que je n'aurai pas à être dur avec vous. Et Bosco, allez-y. Eh bien, merci de m'avoir invité tout d'abord. Ouais, c'est difficile d'être concis dans ce type de domaine de lutte. On parle de lutte contre le crime numérique. Je travaille à Microsoft, à un groupe qui essaye de limiter justement cette criminalité informatique. On voit les menaces qui existent contre les consommateurs. Nous essayons de faire quelque chose d'une manière agressive, de voir les tendances qui se dessinent. Et je travaille avec beaucoup de développeurs informatiques. Les logiciels malveillants, nous les étudions de près. On parle beaucoup de botnets. Nous avons compris que ces dernières années que botnets, c'est une infrastructure criminelle qui est utilisée pour des activités illégales sur l'Internet, le spam, l'hameçonnage, les loteries qui sont fausses. Donc, le botnet, véritablement, c'est ce qu'on doit attaquer, selon nous, sur l'Internet. Il y a de cela un an, nous avons essayé d'être agressifs contre les botnets et que ce soit légal également, le faire d'une manière tout à fait légale. Il y a une poursuite judiciaire en février dernier qui était contre l'opération B49, contre le botnet des Walledac. Et en octobre 27 2010, Microsoft a donc eu un ordre par défaut et contre 277 domaines qui étaient utilisés par le botnet de Walledac. Donc, ce que nous avons réussi à réaliser avec cette opération, c'était de couper entre 70 000 et 80 000 computers, ordinateurs du botnet. Donc, tous ces domaines arrivaient vers nous avec les adresses IP. Et maintenant, nous avons été en mesure dans tout le pays de notifier ces personnes et de nettoyer les ordinateurs, les disques durs des ordinateurs. Donc, c'était ce qu'on appelle l'opération Mars, la réponse active de Microsoft pour la sécurité. On a beaucoup appris avec cette opération B49, qui est une théorie tout à fait légale, qui soutient la défense du DNS. On est très limité aux États-Unis, il faut que vous le sachiez. Pour décapiter un botnet, nous avons donc dû prouver que nous étions dans notre droit. La loi américaine nous oblige à passer par la justice pour avoir ces autorisations. On doit suivre des procédures standards, légales, juridiques, et on doit indiquer aux personnes qui ont ces domaines, uniquement indiqués pour les CNC. C'était difficile donc à réaliser. Ce qu'on a fait, c'est trouver des solutions légales avec un ordre de limitation temporaire, un TRO. C'est vraiment un remède absolument extraordinaire et très rare. Nous avons donc dû utiliser ces procédures légales. Selon les lois de la procédure, on avait 14 jours pour agir. La situation qui existait, c'est que on avait, comme vous pouvez le voir sur l'écran, ce type de structure. C'était nouveau pour moi lorsque je suis arrivé à Microsoft. J'ai dû m'informer à ce sujet. Nous devions déterminer est-ce que l'on fait le processus DRP, comment est-ce que l'on peut s'assurer qu'il y a le processus juridique des États-Unis qui soit suivi, même si c'est possible dans certaines situations, dans la plupart des litiges commerciaux. Après les périodes de temps, ça prend 45 jours. Si on a la possibilité de faire cela, si c'est accepté et acceptable, mais lorsque vous avez un domaine qui est utilisé uniquement pour une malfaisance, eh bien, la personne qui enregistre ce domaine va devoir bouger ce domaine. Le problème, c'est qu'il change de domaine. Donc, la question qui se pose, c'est jusqu'à quel point on peut s'attaquer à cette personne qui bouge d'un domaine à un autre. Donc, plutôt que de s'attaquer au registrant, nous avons décidé de regarder au niveau du registraire. Au niveau légal, le problème qui se posait, c'est que on était une fois limité par la loi américaine, et dans ce cas, ils étaient à l'étranger. Donc, on n'avait pas de juridiction. Les cours américaines ne pouvaient pas avoir juridiction sur vu l'endroit où était ce registraire. Mais étant donné que la plupart des domaines, on a trouvé un angle juridique pour s'attaquer, puisqu'ils étaient des .com. On a passé par VeriSign, basé aux États-Unis, par l'intermédiaire de VeriSign, on a été en mesure de s'attaquer à ce .com. Dans les obstacles, j'en ai mentionné certains. Ce qu'on a appris, c'est que tous les domaines dans cette affaire juridique étaient basés en Chine par des registraires chinois et les informations étaient fausses. Ces informations erronées qui étaient données. Donc, il n'y avait aucun processus ICANN en place. Donc, chacun était un faux. Le processus d'enregistrement n'avait pas été respecté. C'était frauduleux, les informations étaient fausses, et la seule bonne information qu'on a pu déterminer, c'était deux adresses e-mail. Et on connaissait ces adresses e-mail qui existaient, qui étaient à des personnes, parce que quelqu'un a ouvert et lu, jamais répondu, mais ouvert et lu. Nos courriels ont été lus. Donc, si on... Le problème, c'est qu'il risquait toujours de se déplacer d'un domaine à un autre, ces malfaiteurs. Donc, l'enregistrement des domaines au niveau local, s'il ne pouvait pas identifier qui a enregistré ce domaine, ça va être très difficile de faire quoi que ce soit au niveau légal ou de lancer une action en justice. Donc, il y a les traités internationaux aussi qui posent des problèmes. Ça prend beaucoup de temps, c'est très long. On a utilisé la Convention de La Haye. Ça aurait pris des mois pour s'attaquer à ces registres qui étaient en Chine. Et en fait, on en avait arrêté certains. Il y en a certains qui ont coopéré. Mais ça vous montre bien à quel point c'est complexe, à quel point nous sommes dans une situation difficile dans le cadre de l'abus des DNS. Nous sommes dans une situation où on tire profit du processus d'inscription, d'enregistrement, et les botnets savent qu'ils ont l'anonymité et l'immunité en quelque sorte, parce qu'ils ont le temps de changer, de se déplacer. Donc ça, c'était une des premières opérations. Nous allons faire une autre opération à Microsoft. Ce qu'on a vu, c'est que on a un différent type d'abus de DNS. On a vu des botnets qui utilisent non seulement des fausses enregistrements, mais également des codes, des algorithmes qui sont utilisés dans le botnet. Par exemple, vous pouvez générer 15 ou 16 domaines par jour avec certains codes. Par exemple, ça peut être un protocole Internet. Il peut y avoir un mécanisme codé où si on n'atteint pas cette adresse Internet, eh bien, dans le logiciel malveillant, ça vous envoie un mode secondaire et il y a génération d'un nouveau domaine, un nouveau nom. Et on sait quels domaines vont être libérés au quotidien et ces nouveaux domaines sont affectés par l'intermédiaire de ce logiciel malveillant. Donc, ça, c'est avec des codes que cela est réalisé. C'est alphanumérique. Et on se demande, qui enregistre cela et pourquoi? Est-ce que quelqu'un se pose la question, qu'est-ce qui est enregistré? Est-ce que quelqu'un suit cela de près? Ça, c'est les problèmes que nous avons notés lorsque nous avons fait notre opération B49. Et je crois que cela montre bien ce qui doit être fait à tous les niveaux. Peut-être s'il y a un logiciel malveillant, s'il y a un problème de sécurité, s'il y a des allégations, il y a peut-être une période de 24 heures, de l'ICANN ou du registraire qui pourrait permettre à voir si les personnes répondent ou pas, s'il y a bien quelqu'un derrière cette adresse, derrière ce domaine. Donc, voilà quelques points que je voulais soulever aujourd'hui, qui sont tout à fait cruciaux. C'est donc les menaces de botnet qui sont en hausse. Je crois qu'il faut être absolument conscient de la manière dont on utilise cela. Les criminels utilisent les botnets pour faire de la fraude sur l'Internet. Merci beaucoup. C'est absolument fascinant. Rapidement, je vais donner la parole à Joe maintenant. Oui, merci beaucoup. Donc, je crois que nous avons des transparents également. Nous avons des. Alors, selon moi, une des questions les plus importantes qui se passe. Les spammers, quelle infrastructure utilisent-ils? Quelles sont les ressources qu'ils utilisent? Eh bien, clairement, ce sont les noms de domaine. Alors, quels sont les registraires qui sont des victimes de ces personnes criminelles? Nous pensons que dans la plupart des cas, il faut avoir un nombre limité de registraires qui vont être des victimes. C'est donc une violation de leur ligne de conduite qu'ils notent. Moi, je crois que dans beaucoup de cas, ces registraires sont des victimes comme nous lorsqu'on reçoit du spam, du pourriel. Donc, certains ne prennent pas de mesures. Dans ce cas, rien ne se fait, rien n'avance. Donc, j'ai étudié cela pour MOG en février 2008 et j'avais 60 transparents et il y a des gens qui m'ont dit que c'est un petit peu trop long ce type de discours. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui de vous passer ces 60 transparents. Donc je vais faire une version condensée, simplifiée du matériel que j'avais à l'époque à MAG. Vous ne connaissez peut-être pas cette association. C'est un groupe de travail pour lutter contre les messages abusifs. Ça représente 1 milliard de boîtes postales Internet. Il y a des vendeurs, des prestataires de services, des registraires qui participent également dans ces activités. Et ce que je voulais dire, c'est que si ça vous intéresse, si vous voulez participer à MAG, si vous êtes un registraire, ce serait une bonne idée. J'aimerais également vous dire que je suis un conseiller technique auprès d'eux. Donc, si vous essayez de déterminer quels sont les registraires qui sont abusés, eh bien, quels sont les domaines qui pointent à la surface? Eh bien, comment le spam fonctionne-t-il, par exemple? Nous avons une liste qui s'appelle Serbal, qui est entre 500 à 600 000 domaines de listés. Et pour vous donner une idée de l'impact de cela, si vous allez voir un message, si vous avez une liste de domaines, vous voyez entre 0.122 et 4.449 points de chaque zone. Là, on parle de spam assassin. Donc, c'est une situation où il y a un impact fort, il y a beaucoup de confiance de la part de la collectivité. Vous avez besoin également de faire l'adressage des noms de domaine vers les registraires. Vous pouvez vous baser sur les registres, savoir qui est le registrant, le registraire. Je dis en général parce qu'il y a des exceptions à la règle. Il y a certains CCTLD qui n'offrent pas ce service WHOIS ou qui vont le limiter. Ou bien il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. On ne peut pas trouver facilement cette information. On va trouver une manière d'être plus efficace, mais pour le moment, vous n'avez pas toujours accès à toutes les informations. Donc, qu'est-ce que nous observons? Quels sont les TLD, ce que nous voyons le plus souvent dans la liste Serbal de février 2011? 40% des domaines, ce sont des points info. Il y a un problème avec points info. .info a pourtant une bonne réputation. Ils sont attaqués souvent, mais ils répondent rapidement. Donc ça, c'est une chose qui est très claire. .com, en second, bon, ça, j'ai l'expérience de cela. .ru, R-U, c'est pour la Russie, en troisième position. Ça ne m'a pas trop surpris non plus. Donc, il y a une concentration assez forte. Ils nous disent ils vont utiliser un domaine de Gibraltar ou d'Andorre, c'est assez obscur. Non, ce n'est pas vrai. On ne le voit pas actuellement sur cette liste. Donc, là, on ne voit pas le volume de données. On a une situation où les spammers utilisent un domaine et font du spam, du spamming. Donc, il faut bien reconnaître que ces données ne sont pas compensées. Donc, quels sont les registraires que nous voyons le plus souvent sur notre liste Serbal? GoDaddy qui a des réponses rapides. Ce ne sont pas des données, une nouvelle fois, qui sont mises en rapport avec la part de marché. Il y a des domaines qui n'existent déjà plus. C'est ce que l'on retrouve, domaines non trouvés. Donc, il faut qu'il n'y ait pas d'impact opérationnel sur le serveur WHOIS. Donc, c'est une situation où nous voyons des domaines qui disparaissent très rapidement. Il y a des registraires également qui sont associés avec différents CCTLD. Mais on peut se baser avec des données par registraire. Donc, là, vous voyez, je ne sais pas si c'est très utile, mais je vous montre la liste sur mes transparents. Alors, qu'est-ce que l'on peut ajuster par rapport à la part de marché du registraire? Si on pense à cela, par exemple, si on voit GoDaddy ou d'autres les plus grands, ce n'est pas juste de ne pas les informer. Il y a donc des registraires qui ont une part de marché très forte. Donc vous avez un ratio d'environ 1 sur 1. Donc 2/3 ou 3/4 sont listés. Et ça représente peut-être 1 ou 2%. Donc néanmoins, je ne crois pas que on devrait laisser ces personnes tranquilles, leur dire que 1% c'est acceptable. Non, même si 1% est abusé, c'est un nombre important de noms de domaines et c'est une véritable souffrance pour l'Internet. Donc on ne peut pas arriver à zéro, c'est impossible, c'est irréaliste d'arriver. Mais à 0.5, là, ce serait acceptable pour, par exemple, GoDaddy. Ça présenterait 10 000, 20 000 noms de domaines qui sont abusés. Ça serait dans cet ordre d'idées. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des miracles, mais je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait moins d'abus à ce niveau. Donc, en conclusion, quelques étapes qui sont possibles. Il y a encore beaucoup de choses que l'on peut faire. Et c'est un exemple très simple de cette analyse. Selon le volume de spam, on peut lister les domaines, faire une liste de priorités et également fournir des dossiers quotidiens et des fichiers quotidiens. Bon, ce n'est pas si important que d'obtenir très rapidement les données WHOIS, mais il faut le faire au moins fréquemment. Pour les CCTLD, il y a des CCTLD qui ne donnent pas d'informations. Il faut plus de transparence, donc, et il faut que les CCTLD diffusent les informations lorsque l'on les demande. Il faut qu'on ait des cibles, donc. Et il faut, comme je l'ai dit, qu'on ait un seuil également.
Merci Joe. Michael Moran de Interpol. Je m'appelle Michael Moran, ou Moran, comme vous dites aux États-Unis. Je suis membre de la police nationale irlandaise et je participe à Interpol également. Très rapidement, je voulais vous présenter Interpol et essayer de nous éloigner un peu de l'impression que vous avez à Hollywood de Interpol. On ne saute pas des hélicoptères, par exemple, ce n'est pas notre boulot. Nos fonctions principales sont communication, opération, soutien et formation. On dit politiquement correct, c'est le transfert des compétences. Et communication, c'est-à-dire assurer 198 payés par leur bureau central. Chacun de vos bureaux a un bureau central. Et ce bureau central, normalement, est assez haut dans la hiérarchie de la police. Les bases de données, comme la base de données des empreintes digitales, des objets stolés ou perdus, l'art, des objets d'art et des automobiles volés. Et moi, j'ai la responsabilité de la base de données sur l'exploitation et abus des enfants. Il y a des sous-groupes sur les stupéfiants, le crime organisé, le trafic des êtres humains. Et le crime contre les enfants fait partie de mes fonctions. Bon, j'ai poussé le mauvais bouton, excusez-moi. Et voilà, je vous donne une vue générale maintenant de deux opérations qui sont liées, deux opérations, tous les deux basées sur le web, sur Internet, et les deux qui concernent le DNS. Avant de commencer, je ne vais pas utiliser des mots comme pornographie, enfant. Moi, j'appelle ça le matériel d'abus des enfants. Tout ce matériel ne peut pas être produit sans qu'un enfant soit abusé. Pornographie implique le consentement, consentement social, et on ne peut pas dire cela lorsqu'il s'agit de l'abus des enfants. C'est très important de ne pas oublier que comme agent de police et force de l'ordre, lorsqu'on parle de ce matériel, ce n'est pas des photos des enfants, des filles sur la plage. On parle des petits-enfants avant la puberté, souvent sous l'âge de 10 ans. C'est très important de vous rappeler de cela. parce qu'on n'est pas des puritains qui ne veulent pas que vous regardiez la pornographie. Nous sommes des agents de police qui travaillent dans un environnement international et essayer d'identifier les enfants et ceux qui les exploitent et mettre fin à ces abus. Opération Flicker, Tornado et Meiosis, trois opérations qui ont eu lieu contre le même groupe criminel en 2006-2007. Aux États-Unis, il y avait le FBI, il y avait l'équipe CIOS au département de la justice. Interpol a été impliqué également. Il y avait le ministère de l'Intérieur en Biélorussie et puis il y avait la police de Londres. S'il s'agissait d'une opération criminelle qui avait des sites Internet qui vendaient du matériel de l'abus des enfants sur Internet, en utilisant des cartes de crédit simples, vous entrez sur en ligne, éventuellement vous arrivez au site, vous payez et vous mettez toutes vos informations sur la carte de crédit et je peux parler toute la journée de pourquoi les gens font ça. Mais c'est une autre conversation. Mais ils mettent toute l'information et on vous donne accès à ces abus d'enfants en grand volume. En utilisant un nom de code, ça a changé dans l'opération plus tard, mais essentiellement, l'opération Flicker Component, qui était, ça c'est l'FBI, ils ont suivi une autre voie. L'opération Tornado, c'était l'opération Biélorussie. S'il s'agissait plutôt là du blanchiment d'argent, pas des abus des enfants, ils gagnaient énormément d'argent de cette opération. Opération Meiosis, c'était la police de Londres qui a eu possession d'une liste de clients, les idiotes, comme on les dit, qui ont donné leur nom de crédit, leur nom, leur code postal, date de naissance, adresse, tout ça est entré dans l'ordinateur. Ils ont payé pour avoir accès à ces sites pour les abus des enfants. ICE et le FBI aux États-Unis ont suivi les achats à PayPal normalement. Et quand j'ai dit avant, ils payaient avec les cartes de crédit Visa, mais plus tard, ils ont utilisé PayPal. Et donc, il y avait une opération de blanchiment d'argent également. Le résultat final de toutes ces opérations est que 140 pays, on a pu suivre vers 140 pays et qui avaient, où les gens avaient envoyé toutes les informations de paiement. Donc certains pays ont réagi, d'autres pays n'ont pas réagi lorsqu'ils ont reçu ces informations. Les Biélorusses ont éliminé le gang criminel. Ils sont maintenant en prison pour 9-10 ans pour blanchiment d'argent. Mais l'idée centrale ici est que c'était un gang criminel organisé et ils vendaient des enfants, mais ils auraient pu vendre n'importe quoi comme produit. Bon, la fin de ce gang était basée en Ukraine. Et ce gang est devenu l'objet de l'opération Basket. On a pris du contenu, ils ont mis ça en ligne, mais ils ont opéré de manière plus sophistiquée. Ils avaient un système d'abus de DNS beaucoup plus sophistiqué. Chacun de ces opérations aurait eu au moins 2000 noms de domaine et beaucoup dans l'opération Basket, une des manières de cacher leurs opérations. Et parce qu'on a parlé tout à l'heure, il y avait des noms de domaine aléatoires, par hasard. Tous ces 2000 noms de domaine avaient beaucoup d'informations très précises et attachées, n'étaient pas payées par les cartes de crédit avec ces soi-disant idiotes. En fait, tous ces noms de tous ces noms de domaines étaient payés par les cartes de crédit volées. Et deuxièmement, toute l'information était de valeur zéro. Un nom a été utilisé pour registrer, un autre nom était utile. Disons que les noms et les numéros de téléphone étaient justes, les noms étaient justes, mais c'est simplement de l'information que ce groupe criminel avait trouvé sur Internet. Si vous coupez et collez un nom de domaine, on obtenait une page qui disait que le compte était terminé. Hein? Puisque le gang était de l'Ukraine, on ne pouvait pas trouver de résultats si on les cherchait de l'Ukraine. Si la police ukrainienne faisait une recherche sur ces gangs, on ne pouvait pas obtenir des renseignements. Le message qui apparaissait sur l'écran était « compte terminé ». Ils utilisaient la méthode d'injection directe ou ils utilisaient des machines qui avaient été compromises. C'est-à-dire, vous entrez dans un nom de domaine innocent, mais le contenu venait d'ailleurs. Et cet ailleurs était des serveurs dans les pays de l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Et là-dedans, on trouvait simplement un seul fichier. Et ce fichier était redirigé, réorienté vers un autre serveur. À la fin, on n'obtenait aucun renseignement utile. Et voilà, ça, c'est le genre de détail, parce que ce sont de vrais experts qui organisent ces gangs. Du matériel des abus des enfants sur Internet, on ne voit pas autant de volume qu'il y a quelques années. Bill Dixon d'Interpol, de la police criminelle de la Norvège, il est ici aujourd'hui et il va vous parler plus tard du système de blocage en place dans certains pays de l'Europe, surtout en Scandinavie. Mais le résultat de tout cela a été la réduction du matériel des abus des enfants sur Internet à cause justement des opérations de la police à l'échelle mondiale. Opération Basket, par exemple. On a pu démonter le gang. On a pu arrêter des gens et ils sont en prison en Ukraine maintenant. Donc ce gang-là a été totalement démonté. Donc, bloquer, on fait ça souvent en Europe, augmenter la capacité de la police dans le monde est une autre technique. Ça amène à la réduction de cette activité sur l'Internet. Il y a un bureau à Washington que vous connaissez peut-être, une coalition des gens qui font des paiements comme American Express, Visa, PayPal. Ils s'assoient avec la police. Et les ONG aussi, comme le Centre international pour les enfants perdus, on se met à eux à table dans la même salle. Et si on leur dit que leur système de paiement est utilisé pour payer pour l'abus des enfants, ils terminent le compte. Une fois qu'on les avise de cette activité, les payeurs arrêtent de traiter avec ses clients. Les fournisseurs, les associations des fournisseurs de services Internet, eux aussi, ils reçoivent des notifications pour démonter. Ils ont des techniques pour justement réduire la quantité de ce contenu sur Internet. D'autres groupes, comme ceux qui luttent contre le spam, limite aussi accès à ce genre de matériel. Mais DNS et le trou DNS et les registraires, il y a un manque d'effort, un manque de bon sens qui pourrait être mis en place. Moi, je crois qu'on pourrait le mettre en place pour mieux contrôler ce matériel. Et j'appelle les registraires à accepter leurs responsabilités. et que j'aimerais voir une coalition des DNS où on pourrait avoir des procédures justement pour essayer de mettre fin à cette activité criminelle. Il faut avoir un processus mis en place pour mettre fin immédiatement à un domaine pendant le temps que l'enquête ait lieu. Il y a une liste de blocages en Europe. Les critères sont très stricts, mais le matériel qui est absolument illégal dans nos pays, c'est 400 domaines. On ne parle pas d'un million de domaines, on parle de 400, 500 domaines. Point final. Qui ont vraiment du matériel très mauvais, des enfants trop jeunes dans les actes sexuels qui sont abusés. Ces domaines, on aimerait les voir. On aimerait voir un système automatique de notification chez ICANN ou je ne sais pas quelle est l'instance qui a le pouvoir de faire ça. Un autre élément à Cultures, on ne le reçoit jamais, même si on le reçoit ou voit quelque chose qui nous donne une indication. C'est toujours un cul-de-sac, c'est toujours une perte de temps. Quelle, pour moi, la base de données de Whois? Quelqu'un doit être responsable pour cette base de données. Est-ce pour la personne qui est responsable? S'il vous plaît, acceptez vos responsabilités, parce que c'est une base de données qui est absolument inutile. On voit les TLD qui sont dans les crimes impliqués dans les crimes contre les enfants. Souvent, ils sont notifiés et il y a une réaction immédiate. Je sais que je vous garantis que dans les petits pays où il n'y a pas un système de registrement qui est hors de contrôle, ça n'existe pas. Et communication, nous sommes là parce que nous voulons tendre la main à l'ICANN et ICANN a tendu la main à nous et on ne peut toujours pas communiquer. Donc, il faut qu'on commence à danser ensemble. Ça, c'est ce que je vous suggère. Merci. Merci, Michael. Je vous remercie beaucoup d'être si franc avec vos propos et je m'excuse d'avoir mal prononcé votre nom. Robert Flame, je sais qu'on l'appelle Bobby. Bon, je vais permettre à mes collègues de parler avant moi, Glenn Watson et Terry Sturm. Je m'appelle Terry Sturm et on m'a demandé d'assister à ce panel pour parler de l'abus, comme c'est lié au trafic illégal en ligne des produits pharmaceutiques. Je travaille dans ce domaine depuis 6 ans et dans le domaine des enquêtes contre les pharmaceutiques. Nous sommes le point de contact principal pour les enquêtes qui ciblent les organisations qui trafiquent dans des stupéfiants. Et je veux saisir cette opportunité de partager avec vous le fait qu'aux États-Unis, les drogues pharmaceutiques continuent à tuer beaucoup plus de personnes. Il y a 6 millions de personnes sont affectées par ces abus. En Floride, en 2008-2009, plus de 6 000 personnes sont mortes d'une overdose de produits pharmaceutiques en Caroline du Nord. Une personne est morte d'une overdose. De 2005 à 2009, les overdoses dans l'État de Ohio sont augmentées de 249%. En Virginie de l'Ouest, il y a eu un problème d'overdose, une augmentation de plus de 500%. De 2001 à 2005, plus de 32 000 personnes sont mortes d'une overdose de produits pharmaceutiques. Et voilà donc des augmentations énormes. Si vous ne testez pas vos employés, considérez le fait que de 2005 à 2009, il y a eu une augmentation de 40% dans les employés qui prennent des produits pharmaceutiques illégalement. Les produits vendus sur Internet est énorme. 14 individus ont été condamnés à un trafic de substances contrôlées. Job Network Inc. a eu distribué une énorme quantité de produits pharmaceutiques illégaux. 78 millions de dollars ont été gagnés et toutes ces ventes ont été facilitées par les clients qui placent des commandes sur Internet. Les résidents des États-Unis ont reçu des milliers de paquets contenant d'énormes quantités de dosages sur une période de 16 mois. Au fur et à mesure que l'Internet devient un outil efficace pour du commerce légitime, en même temps, ça facilite une énorme variété d'activités criminelles. On voit les développeurs de sites web, des registraires et d'autres qui participent dans cette activité. On a rencontré spam, logiciels malveillants, botnets et autres, des serveurs illégaux et autres. Ça continue à empêcher nos enquêtes. Même identifier l'adresse physique d'un registraire pour donner un mandat de perquisition, d'arrestation devient difficile. Ces criminels utilisent des milliers de sites, domaines, de noms de domaines. Ils changent des noms de domaines, ils changent des serveurs, ils changent l'information sur Whois et ils transfèrent des services de noms de domaines sans difficulté. En 2009, les États-Unis ont adopté une loi dans la matière et a ajouté deux crimes à la loi sur l'abus des substances contrôlées. Lié à la distribution sur Internet de ces substances contrôlées, c'est illégal pour toute personne de livrer, distribuer, dispenser à une substance contrôlée par la voie de l'Internet. Les exemples des activités sont livrer, distribuer, dispenser à une substance contrôlée sur Internet par une pharmacie qui n'est pas inscrite et je voudrais souligner par-ci servir comme agent intermédiaire ou autre entité qui fait que l'Internet soit utilisé pour mettre un vendeur et un acheteur ensemble pour acheter et vendre ces substances contrôlées. Les forces de l'ordre ont des recommandations à l'ICANN basées sur des enquêtes dans le monde réel aux États-Unis et à l'échelle internationale. L'intention de ces recommandations et de dissuader le cybercrime avec la mise en œuvre des noms de domaine internationalisés, les nouveaux noms de domaine de premier niveau et l'Internet qui va s'élargir par des milliards de fois. Il faut absolument augmenter les contrôles. Les statistiques démontrent que la santé et la sécurité publique est à risque. Et il faut une action immédiate de la part de votre communauté. Merci, Terry. Glenn Watson, de la FDA des États-Unis. Bon, je m'appelle Glenn Aiden, agent spécial pour le Bureau des enquêtes criminelles de l'FDA. Nous avons la responsabilité de mener des enquêtes criminelles lorsqu'il s'agit des produits réglementés par le FDA, les produits pharmaceutiques aussi, dans un effort de ne pas répéter ce que tout le monde a déjà dit. Je vais simplement ajouter quelques questions à ce que Terry a déjà dit liées aux substances contrôlées. Même après l'adoption de la loi Ryan Head, il y a toujours un marché énorme pour la vente des produits pharmaceutiques via Internet qui sont des faux produits. Une étude a été faite par l'OMS qui montre que 50% de tous les produits pharmaceutiques vendus en ligne, des adresses cachées, sont faux, sont des contrefaçons. La plupart des gens qui travaillent dans ce domaine, on pense, bon, c'est simplement Viagra, Cialis, c'est pas important. Mais si on va un peu plus profondément dans le problème, c'est beaucoup plus important que ça. Il s'agit de produits pharmaceutiques pour qui servent à servir la vie, comme Lipitor, Plavix, Nexium, Zyprexa, les antibiotiques, insuline, des produits pour lutter contre le cancer aussi. Donc c'est beaucoup plus important. Et vu de ce point de vue, le problème est beaucoup plus important. Les gens ne sont même pas au courant et ne veulent pas l'admettre. Un des problèmes que nous avons étudié récemment est si les services proxy sont appropriés pour des organisations qui vendent des produits réglementés comme des produits pharmaceutiques, comme si vous allez dans votre pharmacie locale ou vous allez voir votre médecin et vous avez une ordonnance pour un produit pharmaceutique, vous voulez contacter la personne qui vous fournit ces produits. Mais quand vous avez des organisations criminelles qui travaillent sur Internet, ils ne veulent pas, évidemment, être contactés par leurs clients. Ils utilisent donc les serveurs proxy pour essayer de tenir à distance les forces de l'ordre. Nous avons vu d'autres problèmes récemment où les sites qui disent qu'ils vendent des produits pharmaceutiques, mais lorsque le client achète, il est contacté par le groupe des forces de l'ordre qui leur dit « Nous savons que vous achetez des produits pharmaceutiques en ligne. Nous travaillons pour les forces de l'ordre des États-Unis, DEA, FBI, etc. Et si vous ne nous payez pas 15 000 $ dans les prochaines heures, on va venir vous arrêter. » Donc, des produits pharmaceutiques, et même s'ils sont des contrefaçons, sont abusés par les criminels sur Internet pour solliciter des cartes de crédit, frauder les gens, voler de l'argent. Je vous remercie. Je m'appelle Bobby Flame et je voulais ajouter quelques commentaires pour résumer ce que nous avons entendu. On a parlé de botnet, abus des enfants, des produits pharmaceutiques faux. Ce que nous avons fait dans les forces de l'ordre, nous avons développer une série de recommandations. Nous voulons que l'ICANN s'assure que les registres et les registraires qui sont accrédités et ceux qui seront accrédités dans l'avenir soient les plus responsables, les plus transparents, les plus capables, avec les meilleures réputations. Deuxièmement, nous voulons que les registraires et les registraires des noms de domaines précis qui ne soient pas des criminels, qu'ils ne soient pas des criminels qui obtiennent ces informations. Il y a des manières de faire ça. Il faut que notre effort soit à 100%. Tout le monde doit participer pour lutter contre ce fléau. C'est ce que vous avez entendu aujourd'hui. Nous travaillons avec les registraires et les registraires d'obtenir cette information. Nous voulons raffiner le processus. C'est la raison pour laquelle nous avons fait nos recommandations. Nous voulons que nous nous adressons précisément aux problèmes qui existent. Il y a tant de problèmes avec les 22 GTLD que nous ne voulons pas que le problème soit plus massif avec l'introduction des nouveaux GTLD. Donc, le temps est très important et c'est la raison pour laquelle nous faisons nos recommandations à l'ICANN et à d'autres membres de la communauté Internet et nous pouvons que nous pouvons réaliser nos objectifs. Je voulais terminer avec ce souhait. Merci. Nous sommes un peu en retard, mais c'est la période que nous avons consacrée aux questions-réponses. Il n'y avait pas de questions qui nous arrivent de Internet. Est-ce que, si vous avez des questions, allez-y, mettez-vous devant le micro.
Je serai bref de Newton.com. J'ai une question pour la collectivité du respect des lois. les registraires doivent obéir aux lois. Et je vois très souvent dans les accords de service et les contrats sur les sites web qu'ils doivent envoyer, s'ils savent qu'il y a une activité criminelle, ils doivent envoyer aux autorités, au FBI, des informations. Est-ce que vous recevez beaucoup d'informations à ce sujet de la part des registraires ? Eh bien, comme je l'ai dit, nous avons vu des petits éléments de coopération, en effet. Mais hélas, il y a un problème plus grave, plus large. Les rapports, est-ce qu'on doit travailler au cas par cas ? Nos ressources sont très, très faibles. Donc, ce n'est pas la méthode la plus efficace, de travailler au cas par cas. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voudrait commenter, rebondir là-dessus. Paul Vixi, Internet System Consortium. J'aimerais vous remercier toutes et tous de dire ce qui doit être dit. On l'a dit auparavant, il faut le redire, il faut le répéter. C'est important que vous soyez ici, mais on aurait dû le faire il y a de nombreuses années. Je n'entends pas beaucoup d'espoir, mais beaucoup d'exaspération. Je sais que la communauté ICANN est large, est vaste, est en pleine croissance. Nous avons une économie, de l'économie des DNS, connaît une croissance très forte. Et c'est pour cela qu'on a beaucoup de fossés dans nos règles. On a très souvent la possibilité de contourner les règles, ce que l'on voit, ce que l'on observe notamment. Donc, il me semble que je redoublerai d'efforts pour vous aider, pour nous assurer que la situation s'améliore. Et je crois que nous tous dans la salle devons faire quelque chose. Nous devons réagir, nous devons agir. Il y a d'autres sphères technologiques, mis à part le DNS, où l'on gère avec un système de réputation. Plutôt qu'il y a des problèmes, on indique les personnes qui ont une mauvaise réputation et qui travaillent en dehors des systèmes de régulation et des règlements. Moi, je crois que je suis l'auteur d'un tel système pour le DNS. Ça vient d'être ajouté à Bind et à d'autres produits, je l'espère. Je crois que si la communauté ne peut pas vraiment être responsable de ses actions, c'est un véritable chaos qui risque de s'en suivre au niveau du DNS. Donc je préférerais travailler de votre manière. Merci beaucoup de vous être exprimé avec force. Merci, Rick Wesson. J'apprécie beaucoup tous les commentaires que j'ai entendus ce matin ou en ce début d'après-midi. C'est un travail difficile que vous effectuez. En 2003, c'est au moment de la réunion de Beijing. Moi, j'ai lancé un service pour les registraires de domaine pour vérifier qui le WHOIS. C'est un système de vérification que j'essayais de vendre aux registraires pour qu'ils puissent vérifier chaque entrée avant de faire une délégation. Et le coût allait être de quelques centimes par nom de domaine et on aurait pu couvrir 209 pays pour vérifier les WHOIS, numéro de téléphone et ainsi de suite, contacts. Et j'ai fait une erreur. C'est de le bâtir d'abord et ensuite d'essayer de le vendre. J'aurais dû d'abord le vendre et ensuite le bâtir. Mais je crois que c'est faisable. Il y a des services aujourd'hui que l'on peut acheter qui coûtent 25 cents peut-être par nom de domaine. C'est faisable. Mais il n'y a pas de volonté de le faire. Lorsqu'on enregistre un nom de domaine et Donc si ce n'est pas une loi ou un règlement ICANN, ça ne se fera pas, je crois. Mais je crois que on peut faire beaucoup plus et éviter qu'il y ait des noms de domaines qui ne soient pas en rapport avec une véritable personne, une véritable entité. Donc moi, je me ferai l'avocat que ICANN mette en place un mécanisme pour que la population, les grands publics, puissent beaucoup mieux suivre le processus et être au courant de tous les problèmes qui existent d'adresses Internet et de protocoles Internet. Je crois que des universitaires pourraient nous aider dans cet effort. Je crois que l'ICANN devrait ouvrir la porte pour que les communautés comprennent mieux le problème. Et ça sera très utile. Merci. Merci. Oui, Don Blumenthal de Public Interest Registry. Donc, j'ai passé un tiers de ma carrière dans le domaine des lois qui régissent l'Internet. Je ne suis pas quelqu'un qui remet en question ce qui a été dit, mais l'exemple de FinCEN, le service financier, donc, de respect des lois financières, pour mettre cela en perspective, si Moran qui en parlait, si vous êtes venu me voir en tant que registraire en disant il y a une personne qui se mêle à des activités frauduleuses, est-ce que vous m'auriez montré les preuves ou est-ce que vous m'auriez indiqué qui était cette personne? Il y a une personne qui travaille au quotidien à ces problèmes. Il a des critères très stricts. Donc, elle ajoute cela à des listes et c'est disponible par l'intermédiaire de votre bureau national. Si vous êtes du BFA ou du Botswana, vous avez un bureau central avec une liste et avec un protocole d'accord, vous pouvez avoir accès à cela sans aucun problème. Les preuves sont là. On est à Lyon en France, à Interpol, mais vous pouvez absolument obtenir des exemplaires de tout cela. Tout est disponible, toutes les preuves sont là, sont disponibles. Ce que nous demandons, c'est que nous mettions en place des protocoles pour bâtir la confiance. Et moi, je crois que j'y crois, personnellement. Je crois que l'on peut mettre en place des processus qui permettront qu'il y ait la confiance qui règne pour que nous puissions faire des enquêtes rapides et prendre des actions rapides. Je crois que c'est tout à fait possible. Lorsque l'on parle de la sécurité du public, lorsque l'on parle de crimes contre les enfants que je vois au quotidien, il est important de faire quelque chose et d'agir. Mais on ne cache rien, notre travail est là, documenté, disponible, ouvert et transparent. Oui, brièvement, je ne suis pas sûr que tout le monde travaille de cette manière au niveau du respect des lois, au niveau des autorités de respect des lois et des polices. Donc, je crois que, en effet, il faut qu'il y ait une confiance, il faut qu'il y ait une relation de confiance, il faut que l'on puisse établir des relations de confiance avec des autorités policières en qui on a confiance, qu'on soit à l'aise. Et qu'en effet, on puisse obtenir des preuves qu'il y a des problèmes. J'espère qu'il y aura des mécanismes. Moi, ce que j'ajouterais à cela, c'est que de la part de la FDA, ces dernières années, on a été proactif pour les registraires. On leur a donné beaucoup de documentation. On leur a indiqué quelles sont les lois qui sont violées par les registrants ou par les sites web. Les allégations qu'on a reçues récemment, il y a des domaines qui sont suspendus, mais très vite, ils se retrouvent avec des registraires qui sont en dehors des États-Unis. Donc, par exemple, pour les ventes de faux médicaments ou de médicaments, si c'est basé aux États-Unis, eh bien, très vite, le domaine va être libéré et ça va être repris par quelqu'un qui ne se trouve pas aux États-Unis. On aura du mal à le poursuivre. C'est ça ce qui se passe. Moi, j'aimerais interrompre cet excellent échange parce que nous avons de moins en moins de temps. Je suis désolé, Alex. C'est vraiment un excellent échange. Les problèmes sont importants, les problèmes d'équité, les problèmes de procédures justes et équitables. Je crois qu'on doit poursuivre le dialogue. Je crois que vous avez tous fait un excellent travail. Vous nous avez fait prendre conscience des problèmes qui existent à ce niveau. On a pris un petit peu la température. Et je crois que vous nous êtes très utiles. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on vous applaudisse et que nous passions au point suivant.
Oh, excellent. Excellent. Thank you.
Oh, there's one.